Liebe Zuschauerinnen,
chers téléspectateurs, chers amis, nous vous saluons chaleureusement pour la 17e émission de la série L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel. Grâce aux explications données par Gabriel dans cette œuvre cosmique de formation et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine, nous avons pu avoir un aperçu unique sur la naissance et la formation de l'existence spirituelle pure à cette dimension, ainsi que sur les événements de la chute, lorsque quelques êtres spirituels se détournèrent de Dieu, l'amour et l'unité universelle. En quelques mots, les êtres de la chute voulaient dissoudre la création divine et fonder à la place un royaume selon leur propre conception. Dans ce but, ils emportèrent dans leur chute un certain volume d'énergie créatrice, une poignée d'éther de lumière, destinée à dissoudre toutes les formes divines. Leur plan a échoué. La chute de ces êtres hors du principe divin uni et soi donna naissance au principe divise, lie et domine, qui conduisit, au cours de périodes de temps incommensurables, à la densification de la matière, puis à la formation de l'homme. L'émission précédente avait pour thème l'éther de lumière infinie et intarissable, la matière primordiale à partir de laquelle l'infini, l'éternel, le Dieu primordial, crée et forme. Elle se concluait par les phrases que voici, qui serviront aujourd'hui d'introduction à notre émission. Nous vivons tous, symboliquement parlant, dans le gigantesque océan de l'éther de lumière éternelle et intarissable, l'océan de Dieu, l'éternel, l'intelligence éternelle, la force créatrice que nous, ses fils et ses filles, pouvons appeler Père. Lorsque vous entendrez parler de l'histoire de la Terre, repensez à l'œuvre de création de Dieu. Dans une poignée d'éther de lumière, tout est contenu en tout. Les hommes de toutes les époques n'ont pas saisi les multiples chances qui leur étaient données. L'énergie de la chute est pratiquement épuisée. Il n'y a plus qu'une issue, cheminer vers l'un universel. Chers amis, nous poursuivons maintenant la lecture de notre livre par un chapitre intitulé « La naissance de la Terre selon les connaissances actuelles de la science ». Les connaissances scientifiques sont en perpétuelle mutation. On peut dire que la science est encore très loin de pouvoir expliquer et interpréter toutes les interactions agissant dans l'univers matériel. Cela vaut également pour les connaissances au sujet de la formation de la Terre. On peut cependant constater, tout en faisant preuve de la plus grande prudence quant à l'exactitude et à la justesse des différentes publications scientifiques, que depuis quelques décennies, et particulièrement au cours des dernières années, la science a apporté de nombreuses nouvelles connaissances contenant une évolution, partant de ce qu'on appelle le Big Bang, et allant jusqu'à aujourd'hui, qui se rapproche en certains points, même si ce n'est que de loin, de la vérité décrite sur l'existence éternelle et la naissance des mondes spirituels purs, contenue dans le livre servant de base à notre série d'émissions. Comme nous avons pu le lire dans cet ouvrage, contrairement à l'univers de matière subtile pure et à l'univers de matière moins subtile, l'univers matériel est composé de l'énergie la plus dense et la plus dégradée qui soit. Ainsi, tout ce qui a lieu dans l'univers matériel est lié aux trois dimensions de la matière. C'est la raison pour laquelle toutes les formes de vie et tous les processus de l'univers matériel ne peuvent pas être directement comparés aux processus qui ont lieu dans l'existence pure, qui, elle, a cette dimension. On peut cependant reconnaître que, de manière similaire à ce qui se produit dans l'existence pure, une évolution sous forme de cycle et de rythme a également lieu dans l'univers matériel, de ses origines jusqu'aux formes toujours plus complexes et subtiles, c'est-à-dire des origines de la matière en passant par la naissance des astres, pour arriver à toutes les formes de vie des mondes minéral, végétal et animal, jusqu'à l'homme. De fait, à différentes reprises, vous pourrez découvrir des parallèles entre ces différents plans et en viendrez peut-être à la conclusion que le modèle de construction de l'univers matériel, tel qu'il s'est constitué en raison des conceptions des êtres qui se sont détournés de Dieu et qui ont déclenché les événements de la chute, n'est autre qu'un pâle reflet du plan de la création de l'intelligence universelle, Dieu, dans l'existence pure. Dans le monde tridimensionnel, il ne reste que bien peu de la beauté et de la perfection de la création éternelle, seulement ce qui reste de la poignée des terres de lumière emportée par les êtres qui se détournèrent de Dieu. Dans ce chapitre, un scientifique décrit, à partir des connaissances actuelles de la science, la naissance de la planète Terre dans le plan tridimensionnel. Commençons donc par écouter les connaissances existantes sur l'époque appelée le précambrien.
Chers téléspectateurs, je poursuis donc la lecture de notre livre. L'histoire de la Terre est classifiée en quatre grandes ères géologiques, appelées le précambrien, le paléozoïque, ou ère primaire, le mésozoïque, ou ère secondaire, et le cénozoïque, ou ère tertiaire et quaternaire, divisées respectivement par les scientifiques en différentes périodes. Notre système solaire, comprenant la planète Terre, est né il y a environ 4,6 milliards d'années de la contraction d'un nuage interstellaire, une accumulation de gaz et de poussière. Environ 10 millions d'années plus tard, est apparue la Lune. On suppose qu'elle s'est formée à partir des débris de la collision de la petite planète Theia avec la Terre. Dans une période de temps comprise entre 4,1 et 3,8 milliards d'années, de nombreuses météorites ont frappé la Terre et la Lune, ce qui explique que c'est uniquement à la fin de cette période, il y a 3,8 milliards d'années, qu'a pu se former une croûte terrestre stable, bien qu'assez fine au début. Les gaz émanant de la Terre formèrent une atmosphère dense composée en grande partie de vapeur d'eau et de gaz carbonique. De la condensation de la vapeur d'eau naquirent les océans. Cette première ère, appelée précambrien, couvre une période qui va de la naissance de la Terre jusqu'à il y a 545 millions d'années, autrement dit une très longue phase représentant les 4/5 de l'histoire globale de la Terre. Il existe encore aujourd'hui, sur tous les continents, des roches datées de plus de 3 milliards d'années. Elles sont appelées les boucliers et composent le cœur le plus ancien des continents, autour duquel se formèrent les jeunes massifs montagneux. Pendant cette première grande ère, l'activité tectonique fut beaucoup plus intensive qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu, tout au long de cette période, d'importants glissements et déplacements des plaques terrestres déclenchant la formation ou la disparition d'un grand nombre de massifs montagneux. Il est intéressant de constater que, dans l'histoire de la Terre, la répartition des continents et des océans change tous les 200 à 300 millions d'années.
On peut déjà constater ici un parallèle. Grâce aux explications données jusqu'à présent sur le thème « L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel », nous avons appris que, dans l'existence spirituelle pure, le développement de la vie débute par le règne minéral. Sur la Terre également, tout a d'abord commencé par les massifs montagneux, les continents et les plaques terrestres. Il n'est pas encore question à cette époque d'une autre forme de vie. Que dit la science à propos de la suite de l'évolution de la vie sur Terre ?
Actuellement, on est à peu près certain que des micro-organismes appelés cyanobactéries vivaient déjà sur la Terre il y a 3,5 milliards d'années. Il existe aujourd'hui encore des roches fossiles ressemblant un peu à des champignons appelés stromatolites et formées par ces bactéries. L'atmosphère terrestre de l'époque ne contenait pas encore d'oxygène. Apparemment, les cyanobactéries inventèrent la photosynthèse et, grâce à la lumière du soleil, donnèrent naissance à des matières organiques à partir de molécules d'eau et de gaz carbonique. Les premières bactéries n'avaient pas de noyau cellulaire. Leur matériel génétique, l'ADN, évoluait librement à l'intérieur de la cellule. Des structures internes complexes, appelées aujourd'hui organites, n'avaient pas encore fait leur apparition. Ces organismes unicellulaires relativement simples, sans noyau cellulaire, furent pendant très longtemps les seuls présents sur Terre. Ils constituèrent en quelque sorte l'avant-garde de la vie et restèrent pendant 3 milliards d'années les seuls organismes vivants à peupler la Terre. Les organismes pluricellulaires firent leur apparition il y a seulement 800 à 900 millions d'années. Au cours de millions d'années, l'atmosphère s'est progressivement enrichie en oxygène, un poison pour nombre d'organismes unicellulaires qui ne résistèrent pas à cette évolution. On parle de la catastrophe de l'oxygène. Cependant, certains unicellulaires réussirent à s'adapter à l'oxygène en l'utilisant pour produire de l'énergie. Les cellules évoluées les plus anciennes, connues par les scientifiques, ont fait leur apparition il y a environ 1,8 milliard d'années. La première grande ère géologique de la Terre connut également plusieurs périodes glaciaires violentes, au cours desquelles la planète fut intégralement recouverte de glace. Ces épisodes sont connus sous le nom de Terre boule de neige. Une stabilisation du climat semble être survenue il y a environ 580 millions d'années. Vers la fin du précambrien, tel que le révèlent des fossiles trouvés aujourd'hui, des formes de vie singulières apparaissent, ressemblant à des petits matelas gonflables ou à des feuilles de fougères. Il semble qu'en raison de l'absence de prédateurs, ces premiers êtres vivants se soient très bien développés au début. Dans la première phase du Paléozoïque, de l'ère primaire, des formes animales tout à fait étranges font leur apparition. Elles ont une certaine similitude avec les arthropodes et une apparence assez effrayante, avec par exemple une bouche en forme de scie circulaire, 5 yeux sur la tête et des pinces au bout de ce qui ressemble à des bâtons.
Und mit an Stielen beweglichen Zangen.
Nous venons d'entendre un résumé très succinct des connaissances de la science sur la première ère géologique de la Terre. Lors de notre dernière émission, il était question de cycles au cours desquels avait eu lieu la dégradation des formes de vie de matière subtile pure en matière dense et grossière. Hans Günther, trouve-t-on des parallèles dans les connaissances de la science ?
Le point de vue actuel de la science concernant la suite de la formation de la planète est le suivant. Sur la base de l'évolution des organismes vivants de cette époque, le Paléozoïque, appelé communément ère primaire, se divise en 6 périodes. Le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère, et le Permien. Dans le Cambrien, donc il y a 545 à 495 millions d'années, c'est-à-dire au début de l'ère primaire, on assiste à une soudaine explosion des formes de vie sur Terre. En termes de géologie, cette soudaine explosion, entre guillemets, peut quand même s'étaler sur une période de 5 à 10 millions d'années. Les fossiles les plus marquants du Cambrien sont les trilobites, qui peuplèrent la Terre de nombreux millions d'années durant. La vie n'existait tout d'abord que dans les mers. C'est seulement dans la période du Silurien, il y a 443 à 417 millions d'années, qu'eut lieu la conquête de la terre ferme. Les plantes siluriennes avaient de toutes petites feuilles qui ressemblaient plutôt à des épines. En comparaison avec les plantes actuelles, elles avaient l'air plutôt dénudées, d'où leur nom de psilophyte, du grec psilos, qui veut dire dégarni. Pour la première fois à cette époque, apparaissent des poissons dotés de mâchoires. On a également retrouvé des fossiles d'animaux ressemblant à de gigantesques crustacés qui pouvaient atteindre 2 mètres de long et qui furent ainsi les plus grands arthropodes qui vécurent sur Terre. C'est au cours du Dévonien, il y a 417 à 358 millions d'années, qu'à partir de la respiration branchiale des poissons, se forme progressivement la respiration par les bronches des vertébrés vivant sur le sol. Cette époque voit ainsi naître les premiers amphibiens, des animaux capables de vivre aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. Dans les mers de l'époque vivaient également de vrais poissons, dont certains ressemblaient aux raies que nous connaissons aujourd'hui.
Grâce aux explications de Gabriel, nous savons que de grandes turbulences accompagnèrent les événements de la chute, c'est-à-dire le fait que des êtres spirituels se détournèrent de Dieu et la formation des mondes de matière grossière qui s'ensuivit. Hans Günther, y a-t-il à l'heure actuelle des connaissances scientifiques indiquant qu'il y aurait eu de telles turbulences ?
Effectivement, la science parle également de conditions extrêmes et de grands bouleversements, de turbulences lors de la naissance des formes de vie sur Terre. Je poursuis la lecture du chapitre scientifique de notre livre. La fin du Dévonien est le théâtre d'une extinction massive des espèces, probablement en raison du refroidissement du climat. Le Dévonien est suivi du Carbonifère. Il y a 358 à 296 millions d'années, l'ère du charbon. Les températures de cette époque, apparemment très élevées, favorisèrent une végétation très riche, et les amphibiens devinrent gigantesques, pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres de long. On trouve à cette époque les libellules de 60 cm d'envergure. La dernière période du Paléozoïque est appelée le Permien. C'était il y a 296 à 251 millions d'années. À cette époque, où le climat est de plus en plus sec, les conifères et les échicétacés, tels d'immenses prêles, font de plus en plus leur apparition. C'est également à cette période que se constituent d'importantes réserves salines dans lesquelles on puise aujourd'hui encore dans le nord de l'Allemagne, par exemple. Le Permien voit également naître le premier saurien, portant une longue voile sur le dos. La fin de cette période est marquée par la plus grande extinction d'espèces jusqu'à nos jours. 75 à 90% des espèces animales en sont victimes. Le Mésozoïque, appelé aussi ère secondaire, a débuté il y a environ 250 millions d'années. Et après l'extinction massive la plus importante de tous les temps, elle représenta pour les organismes vivants comme un nouveau départ. La masse totale de terre ferme constituait à cette époque un seul supercontinent connu sous le nom de la Pangée. Les espèces animales terrestres purent ainsi se répartir sur la totalité du sol ferme, ce que la découverte de différents fossiles permet de reconnaître aisément. La plupart du temps, le climat était très chaud et sec. Le Triassique, la première période de cette ère, voit apparaître les premiers mammifères, ressemblant probablement à des musaraignes. Les tortues et les crocodiles trouvent également leur origine à cette époque. De nouveaux sauriens peuplent la Terre. À la fin de cette période, les dinosaures, qui se sont beaucoup développés, ont repoussé en majeure partie les autres espèces animales. Ils règnent en maître pendant au moins 150 millions d'années. Les oiseaux sont les seuls survivants actuels de la lignée des dinosaures et sont, aux yeux de l'évolution biologique des espèces, les parents les plus proches des crocodiles. Am engsten mit den Krokodilen verwandt.
On peut véritablement parler de transformations énormes dans l'évolution des espèces animales. Que sait-on de l'évolution du monde végétal, étroitement liée au monde animal ? Que dit la science à ce sujet ?
Le règne végétal a lui aussi été constamment sujet à de grandes transformations. Voici ce que nous pouvons lire sur ce thème dans le chapitre scientifique de notre livre. Dans le règne végétal, les spermatophytes se développent de manière renforcée et à la fin de cette période, on voit les précurseurs des plantes à fleurs. À plusieurs reprises, sur ce grand continent, se forme une mer peu profonde. C'est pourquoi on trouve aujourd'hui de nombreux fossiles dans le calcaire à coquilles. La deuxième période de cette ère s'appelle le Jurassique. Pendant cette période, la Pangée se disloque. Pendant le Jurassique et le Crétacé, la période suivante, les dinosaures sont à leur apogée. Mais c'est la fin du Jurassique qui connaîtra les plus gros dinosaures de tous les temps. C'est aussi pendant cette même période que les premiers oiseaux se développent. Dans le règne végétal de la période jurassique, les gymnospermes, comme les conifères, les gingkoales et les cycadales, qui représentent des similitudes avec les feuilles de palmiers ou de fougères, sont très répandues. À la période jurassique, les ammonites, des êtres vivants de la classe des mollusques, atteignent leur plus grande diversité d'espèces en raison du grand nombre de mers peu profondes et chaudes. On trouve aujourd'hui très souvent des fossiles d'ammonites dans le calcaire à coquilles. Le Crétacé a commencé il y a environ 145 millions d'années et a duré à peu près 80 millions d'années. Il se termine par l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Pendant le Crétacé, les continents se séparèrent nettement et commencèrent à prendre sur toute la surface du globe la forme qu'on leur connaît aujourd'hui. Le niveau de la mer étant beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, des mers peu profondes recouvraient une grande partie des continents. On estime que le niveau de la mer de cette époque était de 200 mètres plus élevé que celui d'aujourd'hui. Le développement des plantes à fleurs est accompagné de celui des insectes. À cette époque, les mammifères jouent encore un rôle inférieur et se divisent en deux grandes branches d'évolution, les marsupiaux et les placentaires. En Australie et en Amérique du Sud, les marsupiaux développèrent une grande variété d'espèces, comme par exemple les kangourous, les koalas et les opossums.
Zum Beispiel Kängurus, Koalas, Opossums, eine große Artenvielfalt.
Lorsque l'on parle de la formation de la Terre, la question de l'extinction des dinosaures revient toujours. Quand et pourquoi a-t-elle eu lieu? Hans Günther, que dit la science à ce sujet?
Les connaissances de la science à ce propos sont les suivantes, et je poursuis ici la lecture des explications. Le Crétacé, et avec lui le Mésozoïque, appelé aussi ère secondaire, se termine il y a 65 millions d'années par une grande extinction des espèces, à laquelle on associe la disparition des dinosaures qui marquèrent leur temps pendant 150 millions d'années. La plupart des animaux marins disparaissent également au cours de cette catastrophe qui aurait été causée par la chute d'une météorite d'environ 10 km de diamètre. L'énergie engendrée par cette collision a probablement été gigantesque, vraisemblablement 10 000 à 100 000 fois plus importante que le volume d'énergie total de toutes les armes atomiques existantes. Il est bien sûr question des armes atomiques actuelles qui n'existaient pas encore à l'époque. Il est évidemment impossible de calculer précisément ce qui a été cette force. Pendant longtemps, la Terre a été entourée de cendres et de poussières provenant des volcans. Il faisait sombre et froid sur la Terre, et la photosynthèse des plantes fut en majeure partie stoppée.
Cependant, la vie sur Terre ne fut pas complètement éteinte, sinon nous n'existerions pas aujourd'hui. Et la nature non plus. Alors, comment la Terre, son règne végétal et son règne animal ont-ils réussi à se remettre de cette catastrophe?
Il est extrêmement étonnant, également pour un scientifique, de constater qu'après une telle catastrophe, la vie ait pu reprendre le dessus et poursuivre son évolution. Cet événement marque le début de la quatrième grande époque de l'histoire de la Terre, le Cénozoïque, qui commence par l'ère tertiaire, qui débuta il y a environ 65 millions d'années et se termina il y a 2,6 millions d'années. Au cours de cette époque, les continents se déplacent jusqu'à prendre pratiquement leur position actuelle. Le climat, au début encore chaud et tropical, se refroidit fortement dans la deuxième moitié de cette période et introduit l'époque glaciaire. L'ère tertiaire connaît une grande expansion des mammifères qui se divise alors en de nombreuses lignées d'évolution. Le genre humain apparaît sur la Terre il y a environ 2,5 millions d'années et est probablement précédé par ce qu'on appelle des anthropoïdes, point de vue qui fait cependant l'objet de constantes variations chez les scientifiques. Le tertiaire est suivi par le quaternaire, l'ère dans laquelle nous sommes actuellement, l'ère glaciaire et celle de l'homme. Elle débute il y a 2,6 millions d'années. Au moment de la dernière glaciation de cette époque, le niveau de la mer est d'environ 120 mètres plus bas que celui d'aujourd'hui. Les hivers européens durent être extrêmement froids, car à cette époque, le Gulf Stream fut presque interrompu. Le quaternaire est marqué par la présence nombreuse de très grands mammifères, comme par exemple les mammouths, les kangourous et les chameaux géants, des paresseux et des dasypodidae énormes. Mais la majeure partie de ces espèces disparaissent au début d'une période intermédiaire chaude. De ces grands mammifères restent aujourd'hui uniquement les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames. La première espèce du genre Homo a probablement vécu il y a environ 2 millions d'années en Afrique de l'Est. Les hommes de Néandertal ont vécu il y a environ 200 000 à 130 000 ans. L'homme dit moderne, l'Homo sapiens, existe, lui, depuis environ 100 000 ans.
C'est ainsi que se termine la partie scientifique de notre livre sur la naissance de la Terre. Certains auront certainement remarqué que les minéraux, les plantes et les animaux étaient sur la Terre avant les hommes. Cela pourrait nous donner à réfléchir. Chers amis, notre thème, l'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, nous conduit toujours plus dans la conscience que tous les êtres vivants et toutes les formes de vie créées par l'Éternel font partie de la communauté universelle divine, de l'unité universelle cosmique, de la famille de Dieu, de notre Père céleste. Si vous souhaitez approfondir ce thème, nous vous invitons chaleureusement à suivre la prochaine émission de cette série consacrée à un appel à réaliser le principe « uni et soi » qui est la vie véritable en vous, en nous tous. Nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de mieux. Au revoir et à bientôt.